Bonjour calypsoniens et calypsoniennes, bienvenue dans le coup de cœur de Calypso. Aujourd'hui, nous recevons Paula Anacaona des éditions Anacaona. Bonjour Paula.
Bonjour Agnès.
Merci beaucoup d'accepter notre invitation.
Ben, merci beaucoup de me recevoir dans cette chouette librairie du 11e qui est vraiment très sympathique.
Merci à vous. Alors tout d'abord, pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît?
Donc, je m'appelle Paula, j'ai un peu plus de 40 ans et je suis traductrice, éditrice et depuis quelques années autrice. Et aussi pour me présenter de façon plus personnelle, je suis une femme noire et je trouve que c'est important de préciser ça parce que je suis une femme noire à la peau claire, je suis une femme noire avec un parent blanc, mais je le revendique de façon politique pour montrer aussi toute la diversité que nous les noirs nous pouvons avoir, c'est-à-dire qu'on peut être noir à la peau claire, noir à la peau foncée, noir aux cheveux crépus, noir aux cheveux moins crépus, nous sommes très divers.
Tout à fait. Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi le nom d'Anacaona, aussi bien pour vous que pour votre maison d'édition?
Alors, en fait, j'ai choisi ce nom-là parce que je pense que pour beaucoup d'afro-descendants, ils se reconnaîtront là-dedans. C'est vrai que nous avons un nom où on sait pertinemment que ce n'est pas le nôtre. C'est-à-dire que nous avons été déportés d'Afrique il y a 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles, suivant notre histoire. Et on nous a donné un nom, le plus souvent le nom du maître ou alors un nom un peu donné au hasard. Et je pense que pour un certain nombre d'afro-descendants, il y a cette envie peut-être de se redéfinir, d'avoir un nom qui nous ressemble un petit peu plus. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce pseudo de Paula Anacaona en tant que nom personnel. Et après, pour donner un nom aussi à ma maison d'édition, c'est que voilà, je ne me voyais pas imprimer sur des milliers de livres mon nom d'état civil, mais qui est le nom du colon. Et donc, je cherchais un nom un petit peu inspirant. Et en fait, ce sont des amis cubains qui m'avaient surnommée Anacaona. Parce que c'est vrai qu'Anacaona, à Cuba, bien qu'elle soit haïtienne, elle est quand même très connue, parce que c'est Fidel Castro, quand il a fait sa révolution, qui cherchait des héros autochtones. Et il a remis au goût du jour Anacaona, et qui, pour ceux qui ne la connaissent pas, était en fait reine en Haïti au moment où Christophe Colomb est arrivé en 1492, puisque donc Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique, il est d'abord arrivé en Haïti. Et en fait, c'est la première femme qui a été en contact avec cette colonisation espagnole, qui au début les a accueillis, puis quand elle a vu quelles étaient leurs intentions, où c'était vraiment l'exploitation, la prédation, et ben peu à peu, elle a pris la tête de la résistance. Donc je trouve que c'est quand même une belle héroïne, parce qu'en 1500, être une femme à la tête d'une armée. Moi, je dis parfois pour rigoler que c'est un peu la Jeanne d'Arc des Caraïbes. Et donc, voilà, je suis très fière aussi d'avoir donné ce nom-là à ma maison d'édition et de le porter, parce que ça a été la première femme qui a résisté à la colonisation. Il y en a eu beaucoup d'autres après, qui sont connues et moins connues. Mais voilà, elle, ça a été vraiment la première dès 1494-95. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce nom-là. Et après, d'un point de vue personnel, c'est aussi parce que choisir son propre nom et non pas hériter de son nom familial, c'est en fait un vrai espace de liberté. Et c'est ça qui me plaisait beaucoup, c'était de pouvoir me définir comme moi j'avais envie et pas comme mes parents ou je ne sais quoi avaient envie.
D'accord, je comprends. Et donc c'est pour cette raison que vous avez voulu écrire un livre aussi sur ce personnage historique dont on parle peu?
D'Anacaona, exactement. Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte, les Français, ils ont souvent du mal à le prononcer. C'est une héroïne qui n'est pas du tout connue. Alors que comme je disais, ça pourrait être la Jeanne d'Arc des Caraïbes. C'est-à-dire que pourquoi on connaît Jeanne d'Arc qui a été à la tête d'une armée de soldats? Anacaona, c'est pareil. Mais c'était une femme, c'était une autochtone. Et donc en fait, c'est vrai, on se rend compte tout au long de l'histoire que les héros autochtones, racisés, natifs, etc., ils sont quand même passés sous silence la plupart du temps. Et donc, Anacaona, voilà, je me rendais compte que sur Internet, il y avait des choses un peu vagues qui étaient écrites sur elle. Il y a un livre qui fait référence, qui est un livre de Jean Métellus, qui est haïtien, mais il l'a écrit un petit peu comme une tragédie grecque. Oui. Donc c'est en vers, c'est limite des alexandrins, etc. Et je me suis dit, voilà, pourquoi, vu que moi, mon ambition, c'est que cette héroïne-là, tout le monde la connaisse au même titre que les gens connaissent Jeanne d'Arc ou Marie-Thérèse d'Autriche ou je ne sais qui, je me suis dit, faisons une histoire simple, bien documentée historiquement. Donc j'ai fait beaucoup de recherches historiques, ce que j'ai fait aussi pour Solitude. Et puis surtout parce que je crois qu'on apprend trop l'histoire du point de vue des vainqueurs. L'histoire écrite par les vainqueurs. Et je crois que ce n'est qu'une vue partielle. C'est-à-dire qu'effectivement, l'histoire peut être vue par les vainqueurs, mais il faut aussi qu'on l'apprenne vue par les vaincus. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut avoir une vision à 360 degrés. Et c'est vrai que ce qui a beaucoup plu, je crois, c'est chez les gens quand ils ont lu ce livre-là, c'était que ce soit Anacaona qui parle. C'est-à-dire qu'on a souvent vu à la télé ou dans les livres l'histoire de la conquête des Amériques ou des Antilles du point de vue du bateau. On est sur le bateau espagnol et on voit le marin qui dit « Terre, terre !» et ils arrivent et patata. Et les gens qui étaient sur l'île.
C'est ça.
En fait, il y a peu de films où, en fait, c'est les gens qui sont sur l'île et qui voient tout d'un coup 15 bateaux arriver.
Qui arrivent.
Donc, en fait, c'est... Et tout d'un coup, ça change complètement la perspective de se mettre du point de vue de ceux qui habitaient là et qui voient tout d'un coup des gens arriver, planter une croix et dire « Bon, bah, maintenant, c'est chez nous, convertissez-vous, etc. »
C'est ça, tout à fait. Merci. Alors, Anna Kaona, qui parle d'ailleurs dans le livre Solitude, qui est sorti récemment.
Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, bon, c'est vrai que Anna Kaona, quand j'ai écrit le livre, elle m'habitait complètement. Et je pensais qu'elle m'habitait parce que c'était Anna Kaona, mais en fait, quand j'ai écrit Solitude, Solitude aussi m'habitait complètement. Et du coup, j'avais deux femmes qui m'habitaient, Anna Kaona et Solitude. Et je me suis dit, enfin, plus sérieusement, que ça pourrait être aussi un axe d'écriture, que, en fait, Anna Kaona, qui a donc été cette première résistante à la colonisation, comme je l'ai dit, ce soit, en fait, une espèce d'ombre bienveillante pour toutes les résistantes qui ont suivi. Donc je me dis, même si peut-être un jour, je ne sais pas, j'écris un autre livre sur une autre femme résistante, je ne sais pas, Queen Nanny de Jamaïque ou je ne sais quoi, et ben voilà, Anna Kaona serait là comme une source d'inspiration, comme une source voilà, de réconfort. Voilà, bon, c'était un axe d'écriture, mais j'ai trouvé ça intéressant aussi de connecter les destins, en fait. Et peut-être que, surtout qu'il y a quand même des traditions orales qui se transmettent, donc peut-être que Solitude avait entendu parler de femmes qui s'étaient rebellées, de femmes autochtones. Donc je crois que c'est des sources d'inspiration. Et donc pourquoi ne pas la mettre dans le livre ?
Dans le livre, tout à fait. Alors nous allons parler précisément maintenant de Solitude, la flamboyante, donc, qui est sortie au début du mois de décembre.
Exactement.
Alors pourquoi avez-vous choisi d'écrire la vie de Solitude ?
Alors je sais pas trop l'expliquer. En fait, je sais que j'avais lu le livre d'André Schwarzbart en 2005, donc c'était quand même il y a un petit bout de temps. Et puis quand j'ai eu l'idée d'écrire un nouveau livre à la suite d'Anna Kaona, parce qu'aussi j'ai eu beaucoup de retours de lecteurs qui m'avaient dit qu'ils avaient beaucoup aimé Anna Kaona, donc je me suis dit bah c'est chouette quoi, continuons à donner une autre perspective, à montrer une autre histoire aux gens. Et Solitude s'est imposée toute seule. Donc vraiment, je veux pas avoir l'air d'une mystique, mais voilà, on dit parfois que les esprits comme ça descendent. Donc voilà, l'esprit de Solitude est venu comme ça, et je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, ok, c'est Solitude. Bien que je sois pas guadeloupéenne, je me suis dit, malgré tout, c'est une héroïne mondiale, en fait. C'est-à-dire que sa résistance contre l'esclavage, voilà, ça peut être une héroïne qui peut inspirer tous les autres peuples qui ont connu cet esclavage. Donc c'est comme ça que l'idée m'est venue assez naturellement, et j'ai jamais douté. Vraiment, tout de suite, comme je le dis dans le livre, Solitude s'est installée chez moi. Et pendant 6, 7, 8 mois, elle a habité avec moi. Mon mari en avait super marre, parce qu'il avait l'impression d'habiter avec quelqu'un d'autre
avec
aussi.
Quelqu'un d'autre.
Mais donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
D'accord. Et donc, vous avez parlé justement de la solitude de Schwarzbart, donc de la muettrice Solitude. Et en quoi la muettrice Solitude et Solitude flamboyante sont différentes, du coup ?
Ouais, alors c'est vrai que je pense que la muettrice Solitude, de Schwarzbart, c'est un livre qui est quand même le produit d'une époque. Donc même si c'est un livre que j'aime beaucoup, qu'à l'époque, quand j'avais lu, j'avais beaucoup aimé, déjà je pense que sa principale erreur, à mes yeux de femme de 2021, hein, il faut aussi replacer ça dans ce contexte-là, c'est ce titre, La mulâtresse solitude. Aujourd'hui, en fait, avec justement toutes les réflexions postcoloniales, les réflexions raciales qu'on peut avoir, on sait que le terme mulâtre et mulâtresse est inadmissible, puisque c'est un thème qui nous animalise, qui nous objectifie. Donc, pour moi, la principale erreur, c'est ça. Ensuite, en l'ayant relu aussi juste avant d'écrire ce livre, je trouve qu'il y a beaucoup de vocabulaire animalier sur solitude. Il l'a décrit comme une chienne, elle est jaune, il y a des tas de vocabulaire comme ça. Et après, autre chose, c'est que, et c'est vrai que c'est un petit peu le mythe global sur Solitude, c'est qu'elle est présentée comme une femme très guerrière, presque sanguinaire et féroce. Et en fait, plus je réfléchissais, et plus j'avais du mal à croire à ce mythe-là. Justement, avec ce que je disais un petit peu avant, c'est-à-dire qu'on sait que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et en fait, quel est l'intérêt des vainqueurs ? C'est de présenter les vaincus comme des gens qui, justement, sont vaincus à raison, parce qu'ils sont inférieurs, parce qu'ils sont primitifs, mm-hmm. parce qu'ils sont sauvages, parce qu'ils sont païens, etc. Et donc, je me dis, donc au début du 19e siècle, où la féminité, ce n'était pas du tout la féminité d'aujourd'hui, c'était la femme douce, la femme effacée derrière son mari. Donc, dans quelle mesure présenter une femme qui était l'inverse de cette féminité, mm-hmm. ce n'était pas en fait servir le pouvoir colonial et montrer aux Français de France, regardez les Noirs et les mulâtres, quelle sauvagerie ils ont. Regardez les femmes mulâtresses, à quel point elles sont anti-féministes. Mmh. Donc en fait, ça, on ne pourra jamais le savoir, hein, mais je me suis dit dans quelle mesure cette espèce de légende qui a été créée autour de cette solitude n'est pas une légende un petit peu faussée. Et donc d'ailleurs, je le dis tout à la fin du livre, où en fait je présente ce gouverneur de l'époque, qui en fait est effrayé par l'aura que Solitude a sur toutes les personnes qui l'entourent, et qui en fait justement écrit vite au ministre des colonies à Paris, en disant « cette solitude est très dangereuse », et en fait, on le voit qui déforme complètement l'histoire. Donc, j'avoue complètement que c'est mon interprétation, et que si demain, quelqu'un décide d'écrire la mulâtresse Solitude comme une femme guerrière, qui a été au combat, qui a tué des tas de soldats, pourquoi pas, parce que de toute façon, il en faut des femmes et des soldates. Mais en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Et justement, comme le montre le titre, Solitude la flamboyante, moi, je l'ai ressenti comme une personne super généreuse, super bienveillante, et qui en fait justement essaye de s'élever de cette situation coloniale qui est une situation violente, exploratrice, exploitatrice, etc. Et en fait, moi j'ai voulu la mettre au-dessus de ça. Mmh. Un petit peu en fait comme tout le mouvement non-violent de Martin Luther King, etc. Où en fait Martin Luther King disait « votre violence ne m'atteint pas ». Donc, Solitude, elle essaye de vivre en dehors de cette violence. Et en fait, pour en avoir aussi parlé un petit peu avec des spécialistes de cette époque, il faut aussi se mettre à la place de ces esclavagisés qui ont vécu l'horreur, à qui on dit, entre guillemets, vous êtes libre. Mmh. En fait, et je peux les comprendre tout à fait, ils n'avaient qu'une envie, c'était de vivre normalement, en paix, avec leur petit lopin de terre, éventuellement leur famille. Et peut-être qu'il y en avait qui avaient effectivement envie de vengeance, envie de combat, etc. Mais je peux comprendre que d'autres avaient juste envie de...
De quiétude, de paix. Et
voilà.
De...
Oui, que ça s'arrête. Et donc, cette solitude, en fait... Au moment où on va les déclarer, entre guillemets, libres en 1794, elle va se rendre compte que cette liberté est une liberté de façade, parce qu'ils sont libres, mais ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas d'argent, etc. Et en fait, elle va donc s'éloigner avec, au départ, un petit groupe de femmes, et après, au fur et à mesure, elles vont devenir de plus en plus nombreuses, et elles vont faire une communauté complètement autonome, complètement indépendante, et c'est une communauté que j'ai inventée super écologiste, super humaniste, et donc c'est vrai que c'est moi, en 2021, qui invente ça. Donc en fait, je crois que c'est ça aussi la force des grands personnages et des grands mythes, c'est que chacun peut les interpréter à sa façon. Mmh. Donc j'avoue que c'est mon interprétation, néanmoins, voilà, le fait, j'ai quand même fait beaucoup, beaucoup de recherches historiques, donc en tout cas, là, toute la première partie du livre qui se passe vraiment dans la plantation, je crois que j'ai essayé de rendre assez fidèlement les relations qui pouvaient se tramer entre les maîtres et les esclavagisés, mais aussi entre les esclavagisés. Et ça, c'était aussi assez important pour moi de voir comment entre eux est-ce qu'ils se comportaient, quelles étaient leurs relations. Parce que c'est vrai qu'il y a une intellectuelle indienne, la Spivak, qui dit « les subalternes peuvent-elles parler ?» Et bon, elle dit « non, les subalternes ne peuvent pas parler » ou en tout cas, il ne faut pas romantiser leur rôle. Donc sans romantiser complètement le rôle de ces esclavagisés, j'ai cherché à montrer les petites rivalités qu'il pouvait y avoir, mais de temps en temps, il y avait quand même aussi de la solidarité. Mmh. Et notamment, cette solitude, elle va rencontrer une personne, Henriette, et... En fait, j'avais très envie de montrer ce genre de rencontre qui peut changer la vie. Et ça peut nous arriver même aujourd'hui. C'est vous rencontrez une personne qui, ça se trouve, ne le sait même pas, mais elle a eu une influence déterminante sur vous. Elle vous a dit un petit truc, elle vous a montré une religion, elle vous a montré des livres, elle vous a montré je ne sais quoi. Et donc, cette solitude, avec cette Henriette, tout d'un coup, elle va s'ouvrir justement à la culture noire et elle va arrêter d'avoir honte de sa culture noire. Puisque donc, elle, en tant que métisse, que petite protégée, que claire de peau. Elle vit toute la première partie de sa vie dans un déni total de sa couleur, de sa négritude, de sa culture, puisqu'on fait que lui dire que c'est mal. Donc elle croit ses maîtres. On lui dit que c'est mal, on lui dit que c'est moche, on lui dit que c'est païen. Et puis tout d'un coup, elle se rend compte qu'il y a une beauté quand même là-dedans. Et donc c'est là où elle va switcher, en fait. Elle va changer de camp. Et peu à peu après, elle va prendre la lutte de l'esclavage. Donc vous voyez, en fait, c'est vrai que... c'est mon interprétation, parce que j'avais envie de montrer aussi, c'est-à-dire que effectivement certaines personnes, comme par exemple Dandara, que j'ai publiée, elle, à 4 ans, elle est déjà super révolutionnaire, super révoltée, super à lutter contre le pouvoir colonial. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Et je crois qu'il y a aussi des gens où c'est un processus, où ça se fait petit à petit. Et donc, en tout cas, voilà, c'est le cas de Solitude, qui au début se fait un petit peu avoir par le jeu colonial. Et ça, je trouvais ça intéressant, en fait, de montrer cette espèce de... Au début, c'est un petit peu un anti-héros, c'est-à-dire qu'on la voit complètement en adoration devant ses maîtres. Et puis, peu à peu, elle va changer. Je trouve que ça fait des personnages plus complexes, ou en tout cas avec plusieurs couches, de voir qu'ils sont pas... On n'a pas toujours une destinée linéaire. De temps en temps, on a des accidents de parcours.
D'accord. Et justement, est-ce que cela a été facile pour vous d'avoir des sources pour écrire votre livre, ou bien comment avez-vous fait justement ?
Franchement, les sources qui cherchent trouvent. non, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup plus de sources sur Solitude que sur Anacaona. Mm-hmm. Anacaona, franchement, ça a été très compliqué parce que bon, c'était 2 siècles avant, c'était plus vieux. Et surtout pour Anacaona, le problème, c'est que donc elle venait de l'ethnie Taïno et que c'est une ethnie avec ce qu'on appelle les Caraïbes ou les Arawaks qui ont quasiment complètement disparu. Donc là, ça avait été très compliqué. Alors que pour la période de l'esclavage, en fait, on a beaucoup de sources pour une raison assez simple et cynique. C'est que comme l'esclavagisé était un bien, on a des tas de registres. Voilà, machin avait 130 esclaves et ça lui coûtait tant. Et donc, en fait, vu qu'en plus, à l'époque, il y avait ce côté un peu procédurier, bureaucratique, on a quand même beaucoup de sources. Et donc, alors, en fait, bon, je dirais, en France, on a quand même le grand spécialiste qui est Frédéric Réjean.
Tout à fait.
Voilà. Donc, franchement, il faut reconnaître que ces livres, voilà, je les ai lus, je les ai surlignés, je les ai stabilo-bossés, j'ai mis des post-it. Enfin, mon livre, c'est un vrai outil de travail. Mais voilà, il a écrit plusieurs livres et qui, en fait... Alors, d'ailleurs, bon, je m'étais dit que j'allais lui envoyer Solitude quand même, parce qu'il évoque une fois Solitude dans son bouquin qui fait 1000 pages, et il l'évoque une fois au détour d'une phrase en mettant du conditionnel parce qu'on n'est pas sûr qu'elle ait existé.
Ah bon?
Ouais. Enfin, lui, en tout cas, il la présente comme il y aurait eu une Solitude. Enfin, rien n'est sûr. Mais en fait, là où c'était intéressant, c'est que ça m'a permis de saisir le contexte. Justement, ça m'a permis de voir comment fonctionnait une habitation, combien de repas par jour avaient droit les esclavagisés. Enfin, en fait, j'ai lu tous ces trucs-là, non pas pour avoir des informations sur Solitude, parce que ça, très vite, j'ai vu que j'en aurais pas, mais pour avoir des infos sur le contexte, pour me permettre d'inventer une Solitude qui a peut-être pas existé, mais en tout cas, elle pourrait avoir existé comme ça.
Voilà, il y a rapport au quotidien, des esclavagistes, tout ça.
Exactement. Donc, les livres de Frédéric Réjean. Et puis après, en fait, en cherchant sur Internet, j'ai aussi trouvé beaucoup de thèses, des thèses d'étudiants de l'EHESS, des thèses d'histoire. Et en fait, il y en a un qui va faire une thèse sur le marronnage, une autre qui va faire une thèse sur les libres de couleur, un autre qui va faire sur Napoléon et ses relations avec les planteurs. Et donc, en fait, donc, voilà, je me suis farcie à chaque fois les 300-400 pages, en lisant parfois en diagonale. Mais en fait, à chaque fois, ça me permettait de prendre des éléments pour avoir une vue d'ensemble de comment c'était de vivre en Guadeloupe en 1795, etc.
D'accord. Et donc, justement, pouvez-vous nous parler plus précisément du processus de création ? Combien de temps ça prend à peu près d'écrire un livre ? Vraiment de l'idée jusqu'à l'impression, les illustrations et tout ça.
Ouais. Alors, c'est vrai qu'on va dire que j'ai eu l'idée où je me suis dit, bon, je me mets à l'écriture en février 2020.
D'accord.
Ensuite, le 14 mars ou le 10 mars, il y a eu confinement général.
C'est ça.
Donc en fait, pour moi, ça a été pas mal parce que du coup, j'avais moins de sorties, moins de tournées prévues avec mes auteurs, parce que Jamila Ribeiro devait venir. Donc la tournée a été annulée. Donc voilà, tout d'un coup, j'ai eu plus de temps chez moi. Donc en fait, mars-avril, à l'époque, j'écrivais pas encore, mais je lisais. Je lisais, donc je stabilo-bossais tout. Et en fait, je crois que j'ai commencé à écrire, à partir de mai.
D'accord.
Et alors, en fait, moi, je ne sais plus si pour Anacaona, ça avait été pareil, mais en fait, j'écris comme ça me vient. plutôt que de me fixer, je commence par le début, etc. Donc, ça se trouve, le premier chapitre que j'ai écrit, c'est possible que ce soit un chapitre qui se trouve plus ou moins au milieu.
Fin, ouais.
Mais en fait, je me dis, je n'ai pas envie de me retenir. Donc, j'écris comme ça. Et puis, en fait, peu à peu, les choses s'imbriquent. Mm-hmm. Sachant que pour Solitude, j'avais quand même eu, en fait, j'ai eu un gros blocage sur son prénom.
D'accord.
Puisque, en fait, on sait que Solitude pouvait pas s'appeler Solitude parce que c'est pas un prénom chrétien du calendrier. Et vu que les maîtres donnaient des prénoms chrétiens, voilà. Donc c'est pour ça que André Schwarzbart l'avait appelée Rosalie dans son livre. Mais en fait, et donc de temps en temps, les gens croient que Rosalie, c'est son vrai prénom, etc. Mais Schwarzbart, il était comme moi, il avait pas d'infos, donc il a inventé ce prénom. Et moi, je l'ai appelée Aimée. Un petit peu en référence à Aimé Césaire. Et puis parce que j'ai inventé toute une histoire autour de ce prénom-là, Aimé. Donc voilà, donc elle s'appelle Aimé pendant la première partie de sa vie, lorsqu'elle est domestique à la plantation. Et après, je me suis dit, mais quand même, et cette femme, pourquoi est-ce qu'elle a eu ce prénom Solitude, qui est quand même un prénom hyper fort.
Mais c'est ça.
Et c'est ça aussi où je me suis dit, cette image de femme guerrière à la tête d'une armée de 2000 soldats, etc. Est-ce qu'une femme comme ça, on l'appellerait Solitude ? Non, on appelle Solitude une femme qui est seule, une femme qui est un peu ermite, une femme qui est isolée,
qui est
une femme qui est triste, voilà. Donc j'ai eu vraiment, j'ai beaucoup réfléchi autour de ce nom-là. Et donc en fait, finalement, ce que j'ai trouvé, ce qui résume bien pourquoi elle s'appelle Solitude, c'est en fait la solitude dans sa couleur. C'est-à-dire que vu qu'elle est ni noire, qu'elle est ni blanche, y a certains noirs qui l'acceptent pas, les blancs ne l'acceptent pas, et en fait, elle est dans ce truc d'être assise entre deux chaises qui lui donne une grande solitude. Et ça, je trouve que même en 2020, on peut ressentir cette solitude des fois en étant métisse entre deux, ou ne serait-ce qu'entre deux milieux sociaux. Je pense qu'on peut s'identifier à ça. Donc il y avait ce truc de solitude où là, je tournais un peu autour du pot, donc j'écrivais plein de choses à côté et je tournais autour de ça. Et puis, toute cette histoire, comme je le disais tout à l'heure, de femme guerrière, et en fait, toute la fin de sa vie, où, en fait, donc je savais qu'il y avait Delgray en 1802, donc ça, j'ai écrit assez rapidement le passage où il y a Delgray, mais je me disais, mais comment est-ce que Solitude, elle peut s'agréger à ça ? Et après, là, c'est pareil par rapport au mythe qu'il y a autour de Solitude. Les quelques personnes qui connaissent Solitude, etc., souvent, on la représente avec donc son gros ventre en train d'aller au combat avec Louis Delgrès. Mais si vous réfléchissez, enfin, si vous regardez les dates, en fait, Louis Delgrès, où là, on a des preuves, son combat, c'était donc en mai 1802, vivre libre ou mourir. Et si Solitude aurait été guerrière à côté de Delgrès à cette époque-là, en fait, comme elle a été pendue en fin novembre 1802, le lendemain de son accouchement. Et ça, on en est sûr parce que c'est pareil, ça a été noté. En fait, si vous réfléchissez entre mai et novembre, ça veut dire qu'en mai, elle était enceinte de 3 mois.
Oui, donc elle n'avait pas de gros ventre.
Donc, vous voyez, en fait, c'est là où vous vous dites tout ce mythe de femme enceinte qui va au combat comme ça. C'est là où je me dis, c'est possible que ce soit le colon qui a inventé ça. C'est-à-dire une femme enceinte qui porte la vie, tout ce truc sacré de la femme enceinte, il ne faut surtout pas qu'elle bouge,
voilà,
etc.
Elle
va au combat, donc c'est vraiment une femme inhumaine.
Oui, elle ne pense pas à son enfant.
Voilà, mais en fait, ce n'est pas possible. Oui. C'est-à-dire que même si elle a combattu avec des grêles, elle était enceinte de 3 mois, donc bon.
Oui.
Donc voilà, c'est à partir des fois de petits trucs comme ça que je me permettais de réévaluer un petit peu. Donc effectivement, elle rencontre Delgray, mais elle ne participe pas au combat. Et donc voilà. Et ensuite, elle est capturée, mais sans aucune violence. Et voilà. Mais donc en fait, ça a été toute cette partie où j'ai eu un petit peu plus de mal. Alors qu'en revanche, toute la partie du début sur les relations dans l'habitation, etc. Ça, en fait aussi, j'ai lu beaucoup de livres brésiliens, beaucoup de livres américains où il y en a. Et en fait, ça m'a permis quand même d'avoir une petite ambiance. Mais ouais. Sinon par rapport justement, je pense à ça, au Brésil, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'avait souvent interpellée, c'est qu'au Brésil, une des conséquences de l'esclavage, c'est la religion afro-brésilienne, qu'on appelle Candomblé ou Umbanda, qui est super présente au Brésil. Et je me suis toujours demandé, c'est quand même étonnant qu'en Guadeloupe, il y ait si peu de traces. Je sais qu'il y a le Cadezafé. Ou Gadezafé.
Ah, le Gadezafé, oui, tout Gadezafé, à fait.
Voilà. Oui. Donc, mais qui, visiblement, a l'air quand même très minoritaire.
Enfin, et puis considéré, oui, comme un sorcier. Enfin, oui, le Gadezafé, c'est plus un sorcier qu'on va voir.
Ouais, voilà. Et je me suis dit, c'est quand même étonnant que surtout à l'époque, en 1789, où l'Afrique était encore, encore vraiment très présente. Je peux comprendre qu'aujourd'hui, en 2020, ce soit un peu vieux. Et donc, en fait, et ça, c'est sûrement mon influence brésilienne, j'ai mis beaucoup d'histoires religieuses des orishas, qui au Brésil sont très présents, qui à Cuba sont très présents, qui en Haïti sont très présents. Et je me dis, c'est quand même bizarre qu'en Guadeloupe, on n'ait pas ça. Donc, en fait, voilà, j'ai mis toute une petite partie spiritualité, où là, je pense que c'est toutes les recherches brésiliennes qui m'ont vraiment aidée. Et je pense que ça aurait pu se passer comme ça. Après, on n'en sait rien. Donc voilà, donc c'est sûr que l'influence de... Mais je pense que c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on arrive vraiment à une espèce d'intellectualité transnationale où les travaux des Afro-Américains, les travaux des Afro-Brésiliens, les travaux des Afro-Colombiens arrivent jusqu'à nous. Et ça permet quand même d'avoir une vision d'ensemble de ce que ça pouvait être.
Tout à fait. Et alors, aussi bien Anacaona que Soyeux de la Flamboyante sont des romans illustrés, donc vous teniez à ce que les romans, enfin, ça apporte quelque chose en plus pour vous, oui que...
Ouais, moi je me suis dit, parce que c'est vrai que j'ai publié d'autres romans, c'est pas moi qui les ai écrits, où en fait je mettais des illustrations, j'en mettais un petit peu moins, mais j'en mettais entre 5 et 10 dans un roman, parce que je trouve que les enfants ont des romans illustrés qui sont très sympas, et pourquoi les adultes en auraient pas? C'est comme si à partir du moment où on passe à l'âge adulte, fini les illustrations, fini les couleurs, maintenant c'est du noir et blanc.
Et alors pourquoi avez-vous choisi l'adjectif flamboyante pour définir solitude?
Alors là aussi, ça, j'ai mis un petit peu du temps et au final, je l'ai vraiment choisi au dernier moment. C'est-à-dire que mon titre de travail, on va dire, pendant les plusieurs mois qu'a duré ce processus de gestation, parce que c'était presque comme si j'étais enceinte, en fait, mon titre provisoire, c'était « Vivre libre ou mourir ». Et j'hésitais beaucoup sur la date. Est-ce que j'ai choisi 1794, la date de la première abolition, ou 1802, qui est effectivement la date où Delgrès a dit cette fameuse phrase « vivre libre ou mourir ». Et après, en parlant avec Lycelle Quiroz, qui est professeure d'université, d'ailleurs que je remercie dans le livre, qui m'a donné des petites pistes super intéressantes, elle m'a dit « Ah, mais c'est quand même dommage ce titre, parce que c'est un titre qui accentue le côté de la défaite ». Puisque cette phrase, elle a été prononcée au moment où ils se sont suicidés. Mettre cette date de 1802, c'est quand même une date horrible, puisque c'est la date où ils rétablissent l'esclavage, qui est quand même le truc le plus... La France est le seul pays au monde à l'avoir fait. Donc voilà, on n'était pas satisfaites. Et puis en fait, je ne sais pas, on faisait un brainstorming. Je me souviens, on était dans un café au moment où les cafés étaient encore ouverts. Et on écrivait des petits objectifs comme ça. Et je ne sais pas si c'est elle ou si c'est moi. Mais voilà, il y en a une de nous deux qui a dit flamboyante. Elle l'a écrit sur le petit papier... Et toutes les deux, on s'est regardées et on a dit « Ok, c'est ça ». Et en fait, c'est vrai que ce terme-là, je sais que le collectif d'afroféministes Moissy, en fait, en parle beaucoup pour justement ces femmes noires. En fait, elles en parlent en disant « Il faut qu'on retrouve notre flamboyance ». Et je crois que c'est un terme aussi assez imagé pour dire « Il faut qu'on retrouve notre fierté, il faut qu'on brille, il faut que notre, voilà, peut-être notre ancestralité soit une force pour nous ». Et donc, le fait de mettre « Solitude, la flamboyante », je trouvais que c'était, ça l'a représentait bien, en fait, parce que je l'imaginais un petit peu comme une espèce de flambeau, une espèce de torche, pour, en fait, nous éclairer toutes. Et moi, c'est vraiment comme ça qu'elle m'a habité et qu'elle habitait chez moi. C'était une espèce de lumière. C'est-à-dire que, voilà, c'est cette présence. Certes, elle n'a pas du tout les conditions de vie que j'ai aujourd'hui, etc. Mais c'est une petite loupiote qui est là quand vous vous tournez et qui peut vous donner de la force les jours où vous êtes un peu abattu. Parce que, voilà, vous dites, repense à 1794 un peu. Hein. Donc voilà, j'aime bien cette image de lumière. Et je trouve aussi que c'est souvent ça qui manque à l'imaginaire autour des femmes noires, c'est qu'on est souvent, bon, soit présenté dans un imaginaire de servilité, de domestique, de nounou, etc., ou soit dans un imaginaire assez agressif. Donc en anglais, on dit la angry black lady. Et je crois qu'on manque souvent d'images de femmes noires généreuses, souriantes, bienveillantes, peace. Donc c'est pour ça que souvent sur mes posts sur les réseaux sociaux et tout, je finis souvent par peace and love. Voilà, parce que je sais que c'est encore un imaginaire qui est peu associé à la femme noire. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'ai appelé Solitude de la flamboyante et j'adore ce titre.
Oui, nous aussi. Et donc précisément pour parler des femmes noires, parce que vous avez publié Dandara, vous avez publié donc Anacaona, La Solitude. Donc c'est important pour vous de mettre en avant justement des femmes noires.
Ouais, alors je crois que c'est vrai que petit à petit, en fait, mon parcours intellectuel aussi, il évolue en même temps que ma maison d'édition. Donc, c'est vrai qu'au départ, il y a encore quelques années, j'avais envie de mettre en avant voilà, des personnages racisés. Mais en fait, maintenant, avec le recul, je me rends compte que si on ne fait pas attention, c'est quand même souvent les hommes qui arrivent en premier. Si on ne fait pas gaffe, c'est les hommes qui m'envoient leurs manuscrits. C'est, voilà. Donc, je me suis dit, je vais mettre un petit peu plus l'accent sur les femmes. Les hommes, même si les hommes racisés, c'est vrai qu'on entend moins parler d'eux, mais dans le cadre des personnages racisés, c'est encore eux, on entend plus parler que les femmes. Donc je me suis dit, vu que je suis une femme aussi, et je crois que j'aurais beaucoup de mal à écrire un livre où je me mettrais à la place d'un homme. Enfin, peut-être qu'un jour je le ferai, ce sera un défi, mais en fait, je ne sais pas comment pense un homme. Alors qu'une femme, bon, même si je ne suis pas toutes les femmes, mais je peux de temps en temps me mettre à la place voilà, d'une femme. Donc c'est pour ça, je me dis, je suis une femme racisée, écrivons sur les femmes racisées. C'est-à-dire que, voilà, on est tellement peu nombreuses aussi à avoir la possibilité de publier, la possibilité d'écrire, qu'il faut aussi que je profite de ce petit espace que j'ai réussi à gagner.
D'accord. Alors, vous en parlez un peu dans le livre, et vous en avez parlé aussi au début, en fait, de l'histoire vue sur le, du point de vue des vainqueurs. Qu'est-ce que vous pensez donc de tous les débats qui agitent actuellement la société et notamment du déboulonnage des statues?
Alors justement, Solitude en parle à la fin, où en fait elle dit « Oh mais j'entends Solitude sur ton île, des statues qui sont cassées, est-ce que c'est une nouvelle insurrection ?» Et en fait, je crois que c'est lié au fait que l'histoire n'est toujours pas refermée. Et c'est-à-dire que je pense que si effectivement, il y a des, c'était souvent des jeunes qui ont déboulonné ces statues, qui les ont cassées, etc., c'est parce que l'histoire ne passe pas, parce que l'histoire est mal enseignée, et parce que notamment cette histoire de l'esclavage, elle est encore présentée comme si nous n'avions pas été acteurs. Et donc cette fameuse statue en Martinique qui avait été déboulonnée, c'est la statue de Schœlcher, qui est présentée comme le grand héros de l'abolition. Et en plus, cette statue, bon, j'ai pas été en Martinique, donc je la connais pas, mais je l'ai vue sur Internet, c'est donc Schœlcher immense avec un enfant noir à ses pieds, à genoux, et de façon magnanime, il lui donne la liberté. Et je crois qu'en fait, c'est ce genre de représentation qui est plus admissible aujourd'hui. Parce que même si Schœlcher sait très bien que de sa place de privilégié, il ait pu agir sur l'Assemblée pour faire voter cette loi, il ne faut pas oublier que cette loi, elle a pu aussi être votée parce que depuis 1649 ou 1635, c'est-à-dire le moment où les premiers esclavagisés sont arrivés, les esclavagisés n'ont pas arrêté de faire la misère aux colons, pour parler familièrement. C'est-à-dire qu'ils se sont révoltés sans cesse, ils ont fait pression sans cesse. Et donc, en fait, cette abolition de 1848, elle n'est pas liée à Schœlcher qui nous a donné cette liberté, elle est liée aux 200 ans de lutte que les esclavagisés ont fait. Donc je crois que c'est aussi pour ça que ces statues doivent être déboulonnées, que l'histoire doit être revisitée. Et tant que ça ne le sera pas, ça donnera une espèce de rancune, parce qu'on sait pertinemment, nous, en notre fort intérieur, que l'histoire ne s'est pas passée comme ça.
D'accord. Alors, pouvez-vous, sinon, nous parler un peu des autres livres qu'il y a au catalogue de la maison d'édition Anacaona ? Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses très intéressantes.
Alors, c'est vrai qu'au début de la maison d'édition, je faisais surtout de la fiction. Parce que c'est vrai que j'aime bien la fiction, puisque d'ailleurs, c'est ça que j'écris. Je trouve quand même qu'avec des personnages, ça permet de s'attacher et de créer du sentiment. Et en fait, c'est vrai que quand on parle de racisme et qu'on a des statistiques, les Noirs sont discriminés à l'emploi, ils sont discriminés dans la santé, etc. Bon, on voit la statistique et je ne vais pas dire que ça nous fait ni chaud ni froid, mais il n'y a pas de sentiment. Alors que quand, en fait, dans un roman, vous allez voir les discriminations, vous allez pouvoir vivre au jour le jour avec cette personne qui est discriminée, je trouve que ça change un petit peu la perspective. Donc au début, je faisais juste cette fiction. Et puis quand même, après, je me suis rendu compte que les essais, c'était bien parce que ça permettait de théoriser, ça permettait de mettre des mots sur des fois des sentiments un petit peu diffus qu'on a. Donc j'ai lancé cette collection d'essais il y a à peu près 2 ans. Et c'est vrai que l'année dernière, j'en ai sorti 3. Donc le petit manuel antiraciste et féministe de Djamila Ribeiro, l'appropriation culturelle de Rodney Williams et le racisme récréatif. Et en fait, ce sont des livres qui, moi, m'ont vraiment beaucoup nourrie. Et Solitude n'aurait pas été Solitude si j'avais pas lu ces livres. Parce que justement, ce sont des livres qui m'aident à comprendre toutes ces relations raciales, toutes ces histoires d'altérité, toute cette histoire d'imaginaire autour du blanc, autour du noir. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant, même si bon, parfois ça peut être des livres bon, qui sont un peu théoriques, mais je trouve qu'il faut prendre le temps pour les lire, et vraiment ça permet de passer au niveau supérieur pour toute cette réflexion. Sachant que Djamila, c'est vraiment très très accessible. Son petit manuel, moi je le conseille à tout le monde, et même aux adolescentes à partir de 14-15 ans facile, parce qu'elle a une façon d'écrire qui est très simple, où elle vous donne plein de pistes pour ensuite pouvoir aller sur Internet, etc., chercher. Mais elle vous donne quand même les bases pour, elle appelle ça l'alphabétisation raciale.
D'accord.
Voilà, pour quand même vous poser un certain nombre de questions et ne pas vous dire que la blanchité et la négritude sont des caractéristiques qui n'ont pas d'importance. En fait, même si on aimerait que ça n'ait pas d'importance, on est dans des sociétés où il y a eu 200, 300 ans, 400 ans d'esclavage, donc ça en a encore forcément aujourd'hui. Donc voilà, donc et à ce sujet-là, je vais sortir d'ici à peu près un mois un livre absolument incroyable qui s'appelle « Mémoire de la plantation », épisode de racisme ordinaire. Et c'est d'une femme, alors là, ça va être la première fois que je sors du Brésil, parce qu'elle est de... Alors, faut pas que je dise de bêtises. Elle est métisse d'Angola et du Mozambique, ou Angola-Cap-Vert. Enfin, je sais plus trop, mais en tout cas d'Afrique lusophone. Et en fait, moi, je dis vraiment, c'est Frantz Fanon revisité. C'est-à-dire qu'elle est docteur en psychologie, et en fait, ce livre, c'est un extrait de sa thèse qu'elle a réécrit. Et en fait, elle analyse les épisodes de racisme quotidien, déjà du point de vue des femmes noires. Elle le dit dès le début, c'est ça qui l'intéresse. Donc elle interview des femmes noires pour savoir comment elles le vivent. Et en plus, elle dit aussi, souvent, le racisme est toujours vu par la personne qui pratique des actes racistes. Et en fait, on analyse rarement. Et la personne qui subit ces actes, qu'est-ce qu'elle ressent ? Donc en fait, c'est un livre qui est à mi-chemin entre la psychologie, le témoignage. Et ça s'appelle « Mémoire de la plantation » parce qu'elle, elle dit, le racisme ne peut pas être compris sans tout ce background, sans toute cette histoire coloniale qui, voilà, on baigne malheureusement encore dedans. Donc voilà, donc ce sera un essai qui va sortir en février, que la librairie Calypso proposera, j'en suis sûre.
Tout à fait, mais oui, tout à fait, c'est noté.
Vraiment un super livre. Et puis après, voilà, je me laisse un petit peu porter aussi au gré des coups de foudre que je peux avoir en lisant, donc voilà.
D'accord, ah ben justement parce que j'allais vous demander précisément si vous aviez d'autres projets en ce moment, donc déjà, on sait.
Voilà, Mémoire de la plantation, voilà, à partir du mois de février, probablement.
D'accord, bon, mais c'est super alors. Mais merci beaucoup, Paula.
Merci à vous, j'ai adoré cette conversation, merci pour cette possibilité de m'exprimer.
Mais oui, mais c'est tout naturel et vraiment, et nous vous conseillons vraiment de lire Solitude et la flamboyante aux éditions Anacaona, qui est disponible bien sûr chez Calypso.
Merci beaucoup.
Merci. Merci chez Calypso. Chère Calypsonienne, de nous avoir écoutés, et ce podcast a été réalisé par Labcast. Merci à vous, Calypsoniens et Calypsoniennes, d'avoir écouté ce podcast, et à bientôt pour un nouveau coup de cœur.